Merci pour cette lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, sans ton esprit, on ne peut rien comprendre de toi. Merci de prendre ces paroles de la Bible et de nous aider à comprendre, à voir ce que tu as à nous dire. Éclaire-nous par ce texte inspiré. Amen. Voilà, donc chapitre assez conséquent pour un dimanche matin au mois d'août, n'est-ce pas? Mais on va essayer de trouver un certain nombre de choses dedans. Alors, pour resituer où nous sommes, donc épître des Galates, donc Paul qui écrit à une église en ce qu'on appelle aujourd'hui Asie mineure. Et bon, il y a beaucoup d'idées de comment structurer le livre, mais pour faire un peu simplistiquement, on peut dire les deux premiers chapitres, c'est Paul qui donne le contexte, l'historique de comment on arrive jusqu'à la lettre, et aussi qui annonce pourquoi il a une autorité d'apôtre, et il passe deux chapitres à faire ça, plus ou moins. Puis, les chapitres 3 et 4, c'est l'argumentation biblique. Paul est indifférent avec des ce qu'on appelle les judaïsants, les gens qui arrivent, qui veulent que les chrétiens redeviennent plus juifs qu'avant. Et donc, Paul fait un argument de la Bible des Juifs, notre Ancien Testament, pour dire pourquoi, à son avis, il ne faut pas faire ça. Et donc, on a vu le chapitre 3, là, on va voir le chapitre 4. Et puis, les chapitres 5 et 6, c'est l'application. C'est assez classique chez Paul. C'est, après avoir expliqué beaucoup de choses, il y a un énorme « et alors ?» Et les deux derniers chapitres, c'est un peu ça. Donc là, on est deuxième partie de l'argumentation biblique. Et donc, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de références qui, pour nous, ne sont pas naturelles. Mais commençons par une vue de 10 000 pieds, comme on dirait aux États-Unis, vue de très, très loin. Toute la logique de Paul est de dire, vous avez deux possibilités et il y a un choix fondamental à faire et la différence se voit surtout en avançant. Donc, on pourrait se dire, au départ, c'est un détail, c'est pas important, mais en avançant, on voit qu'effectivement, ce sont deux choses complètement différentes, ça devient clair. Et dans Galates 3, que nous avons vu il y a quelques semaines, là, c'est l'avancée historique. Donc, on commence avec Abraham, on passe par Moïse, la loi, l'arrivée de Jésus. Donc, dans le chapitre 3, Paul reprend toute l'histoire de l'Ancien Testament, toute l'histoire tout court, si vous voulez, et pour montrer que l'histoire d'être sauvé par la foi sort naturellement de cette histoire de l'Ancien Testament. Donc, tout l'inverse de ce que ses opposants disent. Après, dans le verset 1 que vous avez là, c'est l'analogie, c'est au cours d'une vie. Et donc, versets 1 et 2, votre premier paragraphe, ce que dit Paul, c'est que, voilà, vous avez un enfant d'esclave, vous avez un enfant du roi, pourquoi pas. Bah, quand ils ont 5 ans, ça ne change pas grand-chose par rapport à la liberté. Parce que dans les deux cas, un enfant de 5 ans, on ne laisse pas faire n'importe quoi. Là, on est dans la société romaine, et dans la société romaine, même donc les riches avaient souvent des esclaves qui prenaient soin des enfants et qui les amenaient à l'école et qui faisaient la discipline. Et le fait que l'enfant en face, ce soit un prince, ça ne change pas grand-chose point de vue de la liberté. L'enfant, il va quand même à l'école, s'il a envie ou non, c'est comme ça, parce qu'il est enfant. C'est pas compliqué à comprendre. Et l'argument de Paul est de dire que, voilà, il est normal que ça soit comme ça. Et quelque part, la loi, les traditions, tout ce qui venait de l'Ancien Testament servait à ce moment-là. Ça faisait des garde-fous, ça protégeait. C'était en quelque sorte un tuteur pour aider les gens à avancer. Mais seulement, ça va jusqu'à un certain point. Et on arrive à un certain âge où l'enfant qui est soumis à l'esclave, qui est son tuteur, ne l'est plus. Il passe à autre chose et l'esclave reste esclave. Donc, vous avez voilà deux chemins parallèles, mais le chemin esclave, quelque part, c'est une impasse. Et puis, le chemin fils, ça continue. Alors, À chaque fois que je dis fils, je me dis, est-ce que je devrais dire fils ou fille? Alors, pour l'histoire, la traduction qu'on vient de lire, c'est une traduction que mon organisation a fait. Et on a fait beaucoup d'attention de traduire homme comme homme et femme, quand c'est le cas, de bien respecter ce qui est dans le texte. Ici, personnellement, je pense qu'on va rester avec fils. Pourquoi? Parce que dans le monde d'il y a 2 ans, les fils et les filles n'avaient pas les mêmes droits. Et justement, ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est que fin de Galates 3 que j'ai lu, ça finit avec « il n'y a ni homme ni femme ». Et là, on repart avec « vous êtes des fils ». Donc, dans ce contexte précis, je pense que le fait de dire « fils » est quelque part un plus, parce que Paul est en train de dire « nous tous, hommes ou femmes, nous avons les droits de fils dans l'Empire romain, point de vue de legs, héritage ». Et tout le reste, nous sommes tous au même niveau. Bon, je ferme la parenthèse et si vous avez une autre idée pour la traduction, je suis partant. Mais voilà. Donc, quand je dis fils, j'entends nous, les enfants, qui spirituellement sont des fils de Dieu. Voilà. Donc, les choses avancent comme ça. Et puis, on arrive à verset 3. On a, nous aussi, quand nous étions de jeunes enfants, nous étions esclaves des principes du monde. Alors, certains traduisent principes alimentaires. Et si vous êtes peut-être d'une autre tradition, dans beaucoup d'églises, on dirait là, c'est des forces spirituelles, c'est l'occulte, c'est le diable, c'est les démons, c'est beaucoup de choses comme ça. Oui, j'ai beaucoup suivi en fait ce commentaire Galates ou l'Évangile en crise par Donald Cobb, qui est à la faculté Jean Calvin à Aix. Et Donald Cobb s'est amusé à trouver une citation de Platon qui parle justement de qui utilise ce mot grec que nous traduisons par « principe du monde ». Et il s'agit tout simplement du monde naturel, du monde simple. Donc Platon, je n'ai pas pris le temps, mais je ne vais pas vous lire du Platon le dimanche matin. Mais en gros, Platon, la citation de Cobb, il dit « la terre produit de l'eau par une source, l'eau dans la rivière se transforme en vapeur, monte en vapeur, à un moment donné, il redevient de l'eau, et à un moment donné, cette eau rentre dans la terre. » Donc, c'est ça, dans nos classes de collège, on appellerait, c'est le cycle d'eau, c'est ça en français, avec les rivières, les nuages, le cycle d'eau. Donc, c'est quelque chose de naturel qui est décrit par Platon avec le même mot que nous avons là. Donc, c'est la façon dont le monde marche. Ça peut aussi être, c'est plus large que simplement physique, ça peut être notre philosophie, ce qu'on peut comprendre par nous-mêmes. Ça peut être des traditions, et il y en a question ici, hein. Ça peut être des rituels, j'ai envie de dire, ça peut être un peu des combines aussi, hein. On sait comment marche le monde, on sait comment avoir ce qu'on veut, ce qu'il faut dire, pas où il faut appuyer, des ruses, on peut aller assez loin. Et donc, Paul, quand il parle de pour moi, quand il parle de principes alimentaires, principes du monde, c'est ça. C'est le monde comme il tourne normalement. Voilà. Et on pourrait dire aussi avec des esclaves à l'époque, c'est comme ça, le système est fait comme ça. Et on peut aller assez loin comme ça. Le seul problème, c'est qu'on arrive à un plafond. Comme je dis, pour l'esclave qui accompagne les enfants, il va rester esclave, l'enfant, il va progresser. C'est comme ça. On peut être dans un système, on peut faire de mieux en mieux, mais au bout du moment, ça plafonne. Donc, si on parlait de la technologie, ce qui n'est pas le sujet de Paul, mais je veux dire, si on court, on marche, on court plus vite, on a un entraîneur, on court encore plus vite, les gens courent de plus en plus vite. Je me souviens toujours quand il était impossible de faire 1 mile en 4 minutes, et maintenant il ne l'est plus, tout le monde dépasse de 10 secondes. Mais il y a quand même des limites. Hein. On ne va jamais faire 100 km à l'heure à pied. Ça ne se fera pas. On prend un cheval, on va encore plus vite. Et après, on peut faire des croisements pour avoir des chevaux de plus en plus vite. Mais un cheval n'irait jamais aussi vite qu'une voiture. Ça ne se fera pas. Une voiture est juste autre chose. Et puis, les voitures de plus en plus vite, il y a quand même des limites, et aussi la voiture, il est collé sur terre. Même si on fait 300 km à l'heure, on est plus ou moins collé sur terre. D'ailleurs, dans une voiture, si on n'est pas collé sur terre à 300 km à l'heure, ça craint fort. Et puis on met des ailes, on a un avion. Et un avion, ben là, c'est la troisième dimension, on peut monter, on peut faire des choses. Et on arrive à 10 000 mètres, un peu plus, on n'ira jamais plus loin, les ailes ne peuvent jamais marcher dans un vide. Et là, on prend une fusée, on est parti pour autre chose. Et sans doute, d'ici 50 ans, on parlera encore autre chose. Mais donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une question de degré, c'est pas, si je fais vraiment d'effort ou je peux courir à 300 km à l'heure. Ben, non. Selon le système, vous pouvez aller jusqu'à un certain point. Alors, je pense que ce qui est compliqué dans la vie religieuse, dans la vie chrétienne, c'est qu'avec ce système de principe du monde, on peut quand même aller assez loin. On peut aller assez loin, je veux dire, on prend la Bible, il y a beaucoup de bons conseils moraux, si on vit comme ça, c'est très bien. On peut venir à l'église, on peut chanter, on peut apprendre les chants, ça peut même changer un certain nombre de choses. On peut aller assez loin en suivant les règles, en faisant comme si, on peut aller assez loin. Mais ce que Paul dit, c'est que une vie chrétienne comme ça, vous arrivez à un plafond. Vous arrivez à un plafond parce que, pour reprendre ces mots, c'est un système de chair. Et ce que Paul propose, c'est un système, première moitié de l'évangile, de l'épître, il dit esprit, c'est chair et esprit. Ici, c'est chair et promesse. Promesse. Pour dire autrement, c'est ce que j'ai maintenant ici devant moi qui se voit et que je peux toucher. Chair et promesse, ce que Dieu a dit, ce que Dieu va faire, ce que Dieu est en train de faire. Et là, c'est pas une différence de degré, c'est deux choses complètement différentes. Et donc, Paul dit simplement, soyez dans ce deuxième groupe, soyez dans ce groupe de fils, soyez dans ce groupe de gens libres, vivez vraiment la liberté, parce que ça vous amènera avec Dieu à des endroits qui sont juste impossibles à atteindre en faisant d'énormes efforts d'être intelligent, raisonnable, riche, religieux. Rien ne vaut la vie de l'esprit à la lumière de la promesse de Dieu. Et Paul termine cette partie-là. Comment pouvez-vous repartir une nouvelle fois vers des principes faibles et pauvres? On entend presque la frustration dans sa voix, quelque part. Je ne comprends pas, vous avez goûté à autre chose. Comment est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Et je me dis que quelque part, on devrait avoir cette expérience. Je pense que si on vit avec Dieu, on devrait regarder l'autre option, comme le monde tourne normalement, et ça devrait être plat et fade et sans intérêt, parce que par rapport à ce que Dieu nous donne en Christ, il n'y a juste rien à voir. Voilà, donc là, c'était Galates 4, 1 à 11. Alors, il y a une deuxième partie qui va de 12 à 20. Et là, c'est tout à fait autre chose dans le temps. C'est la partie que nous avons lue qui est très personnelle. Paul qui dit, je ne comprends rien, on s'entendait bien, vous m'avez reçu, vous m'avez aidé, vous avez fait beaucoup de choses pour moi. Qu'est-ce qui est arrivé chez vous? Je ne comprends pas. Et donc, Paul quelque part tire sur le relationnel. Dans la rhétorique de l'époque, on appelait ça du pathos. Je mets de l'émotion en ce que je dis pour dire que j'ai un lien avec la personne que je veux convaincre. Et c'est ce que Paul fait là. Quelques petites remarques là-dessus. Au verset 15, il est question des yeux. Si je trouve. Voici ce que j'ai vu de vous. Si c'était possible, vous auriez arraché vos propres yeux pour me les donner. Et donc, si vous avez entendu à un moment donné que Paul avait des problèmes de vue et que c'était une affliction et qu'il n'a pas été guéri et tout ça, ça dépend en partie de ce verset-là. Et pourquoi pas? Après, il y a pas mal d'experts qui diraient que tout simplement, parler de donner ses yeux, un peu comme en français, on a une expression comme ça avec les yeux, non? Le prix des yeux, c'est ça? C'est l'idée de dire, oui, les yeux, c'est ce qui est de plus précieux. Donc, sans imaginer une maladie précise qui est optique ou quelque chose, ça peut être juste une façon de dire, vous avez vraiment de l'importance pour moi. Et puis le verset 16, que j'ai mis dans un paragraphe à part, « Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ?» Et c'est, voilà, apparemment, c'est ce que Paul ressent. C'est, on était bien amis, tout allait bien. Et dès qu'on n'est pas d'accord, c'est fini entre nous. Et voilà, donc, là, on parle de Paul, de sa situation. Mais je me suis dit que ça peut arriver ailleurs aussi. Je pense que c'est, voilà, c'est encore un choix à faire dans la vie. C'est quand les gens ne sont pas d'accord avec moi. Est-ce que c'est celui qui n'est pas pour moi et contre moi, on ferme la porte, on part? Ou est-ce que j'ai quelque chose peut-être à apprendre de cette autre personne qui peut-être me dit la vérité, qui me déplaît énormément, mais ce n'est pas parce que ça me déplaît que ça ne peut pas être la vérité. Bon, ça ne garantit pas que c'est la vérité non plus, mais l'option existe. Donc, être ouvert à celui qui a autre chose à dire, de nous sonder, comme on a chanté au début du culte, pour dire est-ce que c'est vrai ou non. Et je me permets juste de dire que peut-être cette voix de la vérité peut aussi venir parfois, de l'extérieur de l'Église. Que parfois, les critiques que nous entendons, entendons-les au moins, parce que parfois, Dieu peut nous parler de l'extérieur. Voilà. Et troisième chose que je note, on va y revenir d'ici 10 minutes, verset 19, « Mes enfants, je ressens de nouveau les douleurs de l'accouchement. » Et donc, pour l'instant, notons juste que déjà, c'est très personnel, c'est très intime. Et aussi, quand je réfléchis, je ne vois pas beaucoup de textes ou d'orations par des hommes où un homme dit dans la première personne, je vis des douleurs de travail. C'est assez exceptionnel comme chose à dire. On va y revenir. Voilà. Donc, troisième partie, Agar et Sarah. Et là, c'est un peu space à premier abord, mais on va essayer de comprendre. Donc, Paul prend l'histoire de Agar et de Sarah qui se trouve au début de Genèse pour montrer un peu son histoire de deux façons de faire, deux univers, etc. Pour lui, il va dire que Agar et de Sarah représentent ces deux univers. Voilà. Donc, première chose à dire qui me semble important, il s'agit ici d'une allégorie. Bon, il y a des débats dessus. Mais littéralement, le mot grec qui est traduit ici par « image », le mot est « allégoria ». C'est « allégorie », c'est dit en noir et blanc. Dans ce cas précis, c'est une allégorie. Donc, une allégorie, c'est comme une parabole. C'est une histoire qui permet d'expliquer des choses. Donc, ce que Paul ne fait pas est de dire « Agar et Sarah, ils ont vécu comme ça pour illustrer mon message. » Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est ça. Ce n'est pas ça. Et aussi, il me semble important de le dire parce que l'histoire de Sarah et de Daga est quand même assez sordide. Je me souviens, j'ai regardé ça à la télévision, une des séries sur Jésus avec notre fille, elle avait 15 ans, et c'était très comme des directs, la mise en scène. Et donc, tu vois Abraham qui a un certain âge, des cheveux gris et tout le reste, il a besoin d'un enfant, il regarde sa servante qui a 45 ans en moins, ils partent dans une tente, elle ressort enceinte, après on le renvoie dans le désert parce qu'elle fait tâche, et je me souviens ma fille de 15 ans qui a dit, bah, attends, c'est dans la Bible, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça qui s'est passé, et Abraham, c'est un exemple, c'est un bel exemple de là où le but avec l'Ancien Testament n'est pas de faire comme l'Ancien Testament, c'est d'entrer dans l'histoire et de comprendre ce qui est dans l'histoire. Okay? Donc on va faire une image. Après, l'image qu'on va faire est un peu compliquée parce que c'est ça tire sur beaucoup de choses de l'Ancien Testament. Donc, rapidement, il est question de nouveau de chair et de promesse. Donc, ce qu'on a vu avant avec les élever les enfants et tout ça, c'est encore deux possibilités. Le texte de base pour Paul n'est pas Genèse ici, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe. Et on retrouve... Et c'est en lisant ce texte-là qu'on trouve les liens entre Agar, Sarah, Jérusalem, Abraham. C'est à ce moment-là que ça se relie. Donc, je vais vous lire deux, trois versets. Ésaïe 51. « Vous qui courez après le salut, vous mes fidèles, écoutez-moi, dit le Seigneur. Considérez dans quel rocher vous avez été taillé. Pensez à la carrière d'où vous avez été tiré. Considérez Abraham, votre père, Sarah qui vous a mis au monde, Abraham était sans enfant quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni, j'ai fait de lui ancêtre d'un peuple nombreux. » Voilà. Et puis, et puis le texte qui est en italique, à droite en bas, ça vient d'Ésaïe 54. Je pense que je ne vais pas tout lire. Voilà. Mais dans le texte d'Ésaïe, il est question de Jérusalem comme mère. Et Paul reprend cette idée-là de dire la nouvelle Jérusalem est notre mère, verset 26. Donc le lien, c'est pas Paul qui filme quelque chose, il tire ça très précisément d'un texte assez connu par ces gens-là de l'Ancien Testament. Voilà. Donc après vous avez donc Agar, il y a une partie qui semble très compliquée où il est question d'Agar qui ressemble au mont Sinaï dans l'Arabie où se trouve Jérusalem où il y a des esclaves. Et donc, ça fait beaucoup de choses et on peut écrire des livres dessus. On a écrit des livres dessus. Alors, d'après Cobb, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que dans la géographie de l'époque, tout ça faisait la même région. Donc, pour les tout simples, c'est un peu comme si vous me dites parler du Moyen-Orient. Bah, je vois plus ou moins où je peux faire comme ça avec ma main sur une carte. J'aurais du mal à tracer les contours, mais c'est à peu près là. Paul fait un peu la même chose là. Donc, c'est pour dire, tout ça se passe sur Terre dans l'histoire qui est racontée là. Et la fin de l'histoire, c'est que finalement, ce peuple-là finisse par être des esclaves. Ça arrive souvent dans l'Ancien Testament. C'est toujours le cas au 1er siècle. Jérusalem est occupée par les Romains. Mais on pense toujours à l'époque des Galates. Oui. Donc, quelque part, il dit tout ça, c'est de l'esclavage. Hein. Et je pense qu'il y a un petit pic aussi, parce que dans le chapitre 2, il est question de Paul qui monte à Jérusalem pour voir les autres apôtres. Paul qui dit, oui, ces gens prétendu être importants, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a un petit pic là quand même de dire que, oubliez un peu Jérusalem, il y a autre chose que Dieu est en train de faire. Et donc après, c'est simplement le choix entre chair et promesse. Pour lui, Jérusalem, c'est ce que nous avons maintenant, un peu en ruine, occupé, bientôt ça va être réduit à au néant. Ça c'est la route chair. Et la route promesse, c'est la nouvelle Jérusalem que Dieu est en train de faire. Et c'est là où on trouve, c'est entre parenthèses, mais je trouve intéressant, le lien, par exemple, avec Apocalypse. Apocalypse 21, alors, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, etc. Donc, ce qu'on voit là aussi, c'est que c'est pas Paul qui... On dirait que là, on est dans un registre qui se comprenait dans l'Église primitive. Je pense que les Juifs de l'époque lisaient beaucoup Ésaïe en attendant l'arrivée du vrai Messie. L'Église primitive en parlait, et c'est pour ça qu'on retrouve ces références un peu partout. Donc, ça permet de dire que Paul, malgré tout, il est dans la lignée d'autres personnes qui ont écrit dans le Nouveau Testament. Mais voilà. Et donc, l'histoire, c'est simple, c'est qu'Agar a eu un enfant avant. Et cet enfant, il va bien, il est fort et costaud, il grandit bien. Simplement, selon l'allégorie, donc pas l'histoire, l'allégorie de Paul, Agar est dans le mauvais univers, le mauvais principe du monde, et même s'il est plus grand que son frère Abraham qui arrive, Isaac qui arrive beaucoup plus tard, même si Agar il est plus grand, même si Ismaël est plus grand et plus fort, quelque part c'est une impasse. Et c'est là où Paul dit, renvoie le fils de l'esclave, c'est le fils de la promesse qui compte. Okay? Donc, on ne parle pas de ce qui aurait dû se passer à ces gens. C'est l'exemple. Oubliez ces principes du monde. Oubliez vos combines. Oubliez votre habileté religieuse. Et revenez à l'esprit. Revenez à la promesse. Parce que c'est là où l'histoire continue. C'est là où l'histoire finit bien. Voilà. Dernier petit point. Ésaïe 54:1. On va quand même lire un petit peu. Jérusalem, toi qui n'avais plus d'enfants, pousse des cris de joie, toi qui ne mettais plus de fils au monde. Et donc ça c'est dans la Septante, qui est l'ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est le même verbe, odino, utilisé dans ce texte qui est à la base de ce que Paul dit, c'est le même mot que le mot utilisé quelques versets auparavant, comme Paul dit, j'expérimente les douleurs de travail. Paul utilise le même mot. Alors, coïncidence, pourquoi pas, mais un homme qui parle de douleur d'accouchement, 5 versets avant de citer un texte où il est question d'accouchement, je pense que c'est encore un cas où Paul se met au centre de l'histoire, que c'est par lui, quelque part, que cet accouchement de fils par la foi, fils de la promesse, se fait. Il se met au centre et il est vrai, ça fait arrogant tout ce qu'on veut, à moins que ça soit vrai. Et de toute façon, je pense que pour comprendre Paul, c'est le cas. Tout son ministère se base dessus. Il a un rôle unique à jouer dans l'Église et c'est un contexte où on trouve cela. Voilà, donc 30 versets assez compliqués, expliqués assez rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Ben, quelque part, j'ai envie de nouveau reculer énormément et simplement de dire, vous êtes chez vous. Voilà, je pense que c'est ça le message derrière tout cela. D'autres personnes disent aux chrétiens de la Galatie, très bien, vous êtes convertis, mais à moins de devenir juif, vous n'êtes pas vraiment accepté, vous êtes deuxième niveau, limite, pas sauvé, il faut faire cela. Et Paul dit non, vous êtes chez vous. Vous, les gens à qui j'ai prêché l'évangile, vous êtes des chrétiens à 100%, vous êtes des fils, dans le sens romain, à 100%, vous êtes des enfants de la promesse à 100%, et ne laissez personne vous dire le contraire. Voilà. Et donc, en application, je pense que, alors si vous êtes parmi ceux et celles qui viennent à l'église et qui se disent tous les dimanches, mais est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis aussi spirituel que la personne à côté? Si vous êtes dans cette situation-là, je pense que Dieu vous dit aujourd'hui, vous êtes chez vous. Parce que ça ne dépend pas de vous. Dieu vous choisit. Vous êtes son fils, son enfant. Et puis c'est tout. Et si de l'autre côté, vous entendez tout ça et toute la partie qui dépasse la vie normale vous trouble, alors posez-vous la question, y a-t-il quelque chose à découvrir? Y a-t-il une vie d'esprit à découvrir? Y a-t-il une vie de promesse à découvrir? Parce que si c'est le cas, sachez que Dieu vous offre ça gratuitement en Jésus-Christ. Voilà, en tout cas, vous êtes chez nous, nous sommes chez nous, et c'est grâce à Jésus. Amen.